bout du monde. Clémence de Navy.
Bonjour, bienvenue dans le goût du monde. Un voyage aujourd'hui dans les pays du monde arabe, avec pour fil conducteur un ingrédient, un aliment totem, porteur d'histoire, de culture, de savoir-faire. Il ne sera pas question d'un pays par sa cuisine, mais d'un aliment comme note de fond des cultures. Et qui mieux qu'un cuisinier curieux et passionné, conteur, pour nous amener en voyage. Bonjour Karim.
Bonjour Clémence.
Karim Haïdar, chef libanais de la boutique à manger Les Mots et le Ciel, dans le 15e arrondissement à Paris. Alors après le pain, nous avions envie, vous et moi, de raconter des histoires d'eau douce, d'eau salée, et donc de poisson. Ce qui peut sembler peut-être, Karim Haïdar, un peu incongru quand on pense monde arabe et poisson, on ne se dit pas forcément que les deux vont ensemble.
Oui, c'est pas la première chose à laquelle on pense, en fait, dans la nourriture du monde arabe. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote de mon premier restaurant, où je me souviens, donc c'était un restaurant libanais, et je me souviens d'avoir eu un client qui m'a fait un scandale parce qu'il y avait beaucoup de poissons sur la carte, et il me dit, mais il n'y a pas de poissons au Liban. Alors bon, le Liban, c'est quand même 210 km de littoral sur 50 km de profondeur. Donc en fait, en gros, il n'y a que la mer et le littoral. Et en regardant le monde arabe et en déroulant donc pour cette émission, je n'ai pu que constater qu'en fait, tous les pays du monde arabe ont un rivage, une mer, et que quelque part, le monde arabe se déroule d'est en ouest, ou d'ouest en est d'ailleurs, au bord de l'eau, au fil de l'eau. Et ce n'est pas anodin, il y a quand même 6 mers différentes qui bordent plus ou moins le monde arabe, et plusieurs très grands fleuves, comme le Tigre, l'Euphrate ou même le Nil, qui traversent des pays du monde arabe. À partir de là, je crois que c'était très normal que les habitants de ces contrées pensent manger du poisson, en tout cas des produits de la mer, quels qu'ils soient. Et voilà, et on va voir comment ils ont utilisé ce patrimoine qu'ils avaient, ce patrimoine maritime, qui était d'ailleurs très différent d'un pays à l'autre, puisque ce sont des mers très différentes entre le golfe arabique et l'océan Atlantique, en passant par la Méditerranée, la mer Rouge, la mer d'Oman et la mer Morte. Il y a quand même différents types de poissons et différentes possibilités de manger.
Une belle variété, cela presque depuis la nuit des temps, j'ai envie de dire. Allez, micro-voyage dans le temps, je vous propose Karim, au Maroc. La pêche à pied comme la cueillette se pratique depuis des centaines de milliers d'années. On ramassait des coquillages déjà sur la côte du Maroc, au nord de Rabat, comme nous l'avait conté le préhistorien Roland Nespoulet.
La pêche à pied sur le littoral atlantique marocain, ça nécessite, si on veut ramasser des moules, des patelles, de connaître parfaitement l'heure des marées, parce que c'est dangereux en fait, la pêche à pied. Et donc on sait que depuis au moins 200 à 300 000 ans, les hommes maîtrisent ça. Imaginez, on est au bord de l'océan il y a 120 000 ans, c'est environ à 15 km sur le littoral atlantique au sud de Rabat. C'est aujourd'hui une région très urbanisée. Ces hommes sont là il y a 120 000 ans, ils occupent des grottes et des entrées de grottes, et ils se nourrissent de gazelles, mais aussi ils mangent des patelles, des bulots, qu'ils vont ramasser à 200 à 300 mètres de leur habitat, c'est juste à côté, quoi. Ce qui est intéressant, on peut dire deux choses. C'est, ok, ils mangent des coquillages, ils ramassent apparemment pas n'importe quels individus, c'est plutôt des individus gros qui ramassent. Il y a une gestion de cette faune littorale pour l'alimentation, mais ce que je trouve, moi, le plus fascinant, c'est qu'au même moment où ces hommes vont ramasser ces patelles et donc préparer leur panier pour ramener ces fruits de mer et les préparer à la maison, enfin à la grotte, ils ramassent aussi d'autres petits coquillages qu'on appelle les nassarius, qui contiennent de la chair, mais franchement, ça serait compliqué de s'alimenter avec ça. Ces petits nassarius n'étaient pas mangés, ils étaient portés comme des bijoux.
Des bijoux.
C'est incroyable cette histoire.
Et pas seulement, en fait, pas seulement. Nous aussi, enfants, on ramassait des coquillages pour faire des colliers.
Mais
notamment
c'est toujours
d'actualité. Les petites tellines. Ouais. Toujours. Et il y a, donc ça me rappelle, parce que le coquillage c'est assez particulier, notamment dans le monde arabe, parce qu'une grande partie du monde musulman arabe, donc la partie musulmane du monde arabe, une grande partie ne mange pas de coquillage. Donc il y a des discussions pour savoir si on peut manger une coquillage ou non. Et d'ailleurs, où s'arrête le coquillage? C'est assez drôle, on a eu des grandes discussions là-dessus en se demandant, parce qu'ils mangent par exemple des crevettes, mais considèrent que le homard c'est comme un coquillage parce qu'il faudrait une pierre pour le casser. Et donc moi je disais, et vous pensez que si on arrive à l'ouvrir avec la main, ce n'est plus un coquillage? Et c'était des discussions interminables, extraordinaires d'ailleurs. Et à propos du coquillage, ce que je viens d'entendre me rappelle autre chose, en fait plein de choses, parce que c'est vrai que la mer est là tout le temps. Ça me rappelle que on considère que la couleur rouge du drapeau libanais, c'est le rouge phénicien, le urjouan phénicien, et cette couleur en fait vient d'un coquillage. C'est un colorant naturel, mais qui sort d'un coquillage. Donc là encore, le coquillage pour la décoration, pour teindre les tissus, pour les bijoux, pour le tout. Et certains le mangent, certains ne le mangent pas, peu importe.
En tout cas, il fait partie de la vie complètement, intégralement. Donc on a déjà ce premier produit de la mer, et ça depuis 120 000 ans, il disait. Donc c'est absolument fascinant. Alors on parlait du rouge à l'instant. Il y a un autre iconique produit de la mer, rouge. J'ai envie de parler du rouget. Vous voyez,
alors
bien.
Là, vous me prenez par les sentiments. Le rouget, c'est mon poisson passion. J'étais un de ces rares enfants qui, à 3 ans, était abandonné seul à table avec plein de rougets parce qu'il le demandait. Il demandait à rester avec les petits rougets en friture que je débiotais, alors que c'est assez dangereux puisque les rougets, quand même, ont des arêtes assez méchantes. Mais j'adorais ça. J'aime encore ça. Tous ceux qui me connaissent savent que ma passion le matin, c'est de chercher des rougets sur les marchés parisiens, des petits rougets à manger en friture, simplement farinés et frits. C'est une des choses qui me rappelle le plus le bord de la mer de mon pays, donc du Liban, mais aussi de l'ensemble de la côte méditerranéenne. Je pense que c'est déjà la friture, qu'elle soit de rouget, de calamar, d'anchois ou d'autres poissons, est un produit extraordinaire. Ça, contrairement à ce qu'on peut penser, est-ce qu'aujourd'hui les détracteurs de tout ce qui est gras vont vous dire que c'est pas diététique, moi je trouve que ça donne une légèreté quand on en mange, c'est agréable, ça va tellement bien avec les petites choses à boire avec, que ce soit un verre d'arak au Liban, un verre de vin ailleurs en Méditerranée.
Peut-être qu'on confond aussi cette friture avec une friture avec une panure. Et en l'occurrence, c'est pas cette friture-là dont vous parlez.
Non, moi, c'est véritablement simplement fariné. Nous, on utilise très peu, je pense, de panure à proprement parler. On farine simplement. Fariner, c'est juste pour que, en fait, d'une certaine manière, le gras ne pénètre pas la chair du poisson. Il reste à l'extérieur. Il fait croustiller un petit peu la farine. Et voilà, ça croque, ça donne un petit croustillant. Après, l'autre chose, bon, autre anecdote, j'ai eu une fois une personne dans un restaurant. Je faisais une sole en friture et qui me dit, mais vous savez, en friture, c'est gras. Vous voulez pas me la faire meunière plutôt? Et j'ai failli m'étrangler de rire, parce que bon, dans une sole meunière, faut savoir quand même, quand on est léger, il y a 200 grammes de beurre dans la sole, alors que je peux vous garantir que la même sole en friture n'absorbe pas plus de 10 grammes d'huile, hein. C'est pas la même chose.
En tout cas, ce rouget se retrouve, il a l'air assez emblématique, ce rouget, dans les pays du monde arabe. On pense forcément à la goulette en Tunisie, on pense à plein d'endroits comme ça, où il se parsème, où il se frit, où il se cuit.
C'est quand même un roi des mers. D'ailleurs, il s'appelle en arabe, chez nous, c'est-à-dire au Liban, le sultan Ibrahim, c'est-à-dire le sultan Ibrahim. Et on dit qu'un sultan Ibrahim aurait beaucoup aimé ce poisson qui était son favori. Mais c'est le poisson roi. Il faut dire que sa texture, sa chair et sa couleur aussi sont véritablement exceptionnels, parce que même frit, il garde cette très très belle couleur. Les morceaux de chair se détachent, mais sont quand même toujours moelleux, jamais secs. Enfin, quoi vous dire du rouget? Il faut pas me parler du rouget trop longtemps, parce que là, voilà, je salive et je sens que je vais quitter l'émission pour aller en manger. J'en ai trouvé ce matin, hein, donc j'en ai encore.
Le plus communément, on va le frire, mais comment est-ce qu'on va le cuisiner autrement?
Alors le rouget chez nous, on le frit essentiellement, le petit rouget. Quand il est grand, il arrive qu'on le cuise grillé, un peu comme le reste de la Méditerranée. En Provence, on le grille, donc on peut le retrouver grillé, cuit avec des aromates, mais c'est essentiellement frit. Et il arrive aussi qu'on le mette dans des bocaux, tout simplement, soit à l'huile directement, soit véritablement en saumure vinaigrée, comme on ferait pas avec un cornichon.
Donc on se le gardera, celui-ci.
Celui-là, c'est pour la saison où il y en a pas. Mais bon, on arrive à en avoir pas mal de temps.
Donc c'est bien. Ce rouget, alors je vais avoir une idée peut-être un peu folle. Est-ce qu'on peut le marier avec du riz?
Alors, un plat de rouget et de riz.
Là, je pense au sayadillé.
Oui, alors en fait, on pourrait faire une sayadillé de rouget. D'ailleurs, il m'est arrivé d'en faire. Mais la sayadillé, qui est ce poisson, donc toujours, on est toujours dans ma région, donc vraiment le Moyen-Orient, c'est un plat emblématique qui va, je pense, de la pointe de l'Arabie Saoudite, en remontant par la Jordanie, la Palestine, le Liban, la Syrie, toute la côte méditerranéenne, donc qui démarre en fait dans la mer Rouge et qui finit dans la mer Méditerranée. Et ce plat de Sayedi, il faut quand même savoir ce que c'est. Sayedi, ça veut dire le plat du pêcheur. Et ce plat-là est un plat à base de riz, effectivement, qui est cuit avec beaucoup d'oignons et le retour de pêche. Des épices, alors du cumin et du carvi généralement, il y a des gens qui rajoutent de la cannelle. Des oignons qui servent à aromatiser le riz et qui sont carrément brûlés. Donc brûlés jusqu'à devenir noirs et qui vont donner, avec le fumé de poisson, un goût très fort avec ces épices au riz. Et ensuite, on rajoute des oignons croustillants, des pignons de pin, bon, tout le côté classique de nos cuisines très généreuses. Et normalement, ben, c'est la pêche du jour. Donc quelque part, on pourrait mettre ce que l'on veut. Le plus classique serait le mérou. Sinon, en Méditerranée, souvent le loup, un équivalent du loup ou un poisson entre le loup et le mérou. On va choisir généralement plutôt des grands poissons que des petits poissons pour ce plat-là. Mais il se fait parfois avec du rouget.
En termes de goût, on va choisir un grand poisson en termes de goût ?
On va choisir un grand poisson, d'abord parce que c'est un plat de partage. Donc c'est un plat où vous allez avoir le poisson, le riz en grande quantité. Et je trouve d'ailleurs que ce qui va très bien avec ce riz qui est onctueux, il y a une sauce avec, c'est d'avoir des vrais gros morceaux de poisson et pas d'être en train de dépiauter des petites arêtes en mangeant ça. C'est un peu compliqué. Sinon, vous risquez d'oublier une petite arête dans le riz et de mal finir le repas.
C'est, je crois, un plat un peu iconique. Je ne sais pas si on peut dire iconique, mais un plat qui est très souvent mangé quand on est à Gaza.
Tout à fait. La Sayedi, comme je vous le disais, c'est toute la côte méditerranéenne de l'Est, en Palestine et à Gaza en particulier. C'est un plat qui est très, très consommé. Et c'est heureux. Parce qu'on leur a laissé, même si ce n'est qu'un petit accès à la mer, ça permet de ramener quelque chose de très agréable.
Guilhem Deltay, ancien correspondant à Jérusalem, s'est souvent rendu à Gaza. Et il a pu justement discuter avec les pêcheurs de cette pêche et du goût pour la pêche et le poisson que l'on a en Palestine.
À Gaza, on mange beaucoup de poisson puisque c'est un territoire côtier, 40 km en bord de mer Méditerranée. Alors la zone de pêche est limitée par le blocus maritime imposé par Israël, mais les pêcheurs continuent de sortir tous les jours et ramènent du poisson. Et c'est vrai que c'est vraiment une spécialité de Gaza au sens où en Cisjordanie, ils n'ont pas de mer et donc le poisson ne vient que de Gaza. Et depuis la mise en place du blocus, les Gazaouis ne peuvent plus vraiment exporter les poissons, beaucoup plus difficilement en tout cas, exporter les poissons vers la Cisjordanie. Alors les Palestiniens finalement ne mangent du poisson que quand ils sont à Gaza et quand le gouvernement palestinien qui est basé à Ramallah en Cisjordanie a fait son retour dans la bande de Gaza qui est contrôlée par le Hamas. Les restaurateurs, les pêcheurs nous disaient que le gouvernement et tous les fonctionnaires de l'autorité palestinienne qui étaient venus à ce moment-là, il y avait eu énormément de personnes qui arrivaient de Ramallah pendant plusieurs jours mais qu'ils avaient réservé en fait tous les poissons de Gaza, toute la pêche en fait arrivait directement dans l'hôtel où était installée la délégation gouvernementale. C'était leur petit plaisir en fait, d'être à Gaza et de pouvoir manger du poisson.
Ben, un grand plaisir parce qu'effectivement, tout le reste, et ce que ça raconte là est quand même très très intéressant, puisque tout le reste de la Palestine est privé de mer et donc privé de poisson, puisqu'on ne peut pas passer de Gaza à la Cisjordanie. Et de ce fait, ils n'ont pas de poisson là-bas. Et bien sûr, quand vous arrivez à Gaza, vous êtes content de manger du poisson. Parce que bon, même avec une prison à ciel ouvert, il y a quand même la mer.
Dites-moi, Karim Haïdar, riz et poisson, ce partage, ce mélange se retrouve ailleurs dans le monde arabe ?
Oui, bien sûr, c'est fondamental le mélange de riz et de poisson.
Plutôt vers le Levant, on a l'impression.
On peut, oui, parce que le riz, par définition, va disparaître quand on va aller vers le couchant et vers le Maghreb. On va passer à la semoule. Mais le riz, oui, bien sûr, dans la partie du Golfe arabique notamment, où il y a un poisson qui est un poisson roi quand même, qu'il faut à tout prix citer, qui est le hamour. Le hamour, en fait, c'est une espèce de mérou qui s'appelle en français le mérou pintade, qui d'ailleurs ne ressemble pas à une pintade vraiment. Je ne sais pas pourquoi on l'appelle mérou pintade, peut-être parce que il a peut-être quelques taches noires sur du blanc, même s'il est un peu rose aussi. Bon, bref, le mérou pintade ou le hamour est le poisson roi qu'on pêche dans le Golfe arabique et qu'on considère comme vraiment le grand poisson de prestige. Ça serait l'équivalent de ce qu'on a sur l'Atlantique entre un grand turbo ou un beau bar de ligne ou des choses comme ça. Et on mange ce poisson notamment et d'autres. sur un riz d'une manière un peu particulière, sur un riz qui est sucré. En fait, c'est un riz où on prépare au début une espèce de caramel.
Du sucre de l'eau, un sirop.
Voilà, qu'on caramélise bien. Et ensuite, avec des oignons, donc on fait un bouillon d'oignons. On est très oignon hein, avec le poisson. Oignon, riz, poisson, bon, c'est quand même extraordinaire pour la pêche. Et on rajoute, on cuit le riz dans ce bouillon d'oignons avec le caramel. Et ça vous donne un riz qui s'appelle mahammar. Mahammar, ça veut dire un peu, il y a le côté rouge dedans ou le côté qui est doré.
Doré,
mais bon, chez nous, doré, c'est rouge. Enfin, c'est quand vous voyez une volaille dorée, elle n'est pas vraiment dorée, elle est entre dorée et rouge. Donc voilà, on a choisi dans le monde arabe le rouge en arabe et en français, on a choisi le côté doré. On aime les dorures en France et la couleur rouge chez nous, donc le mahammar, justement. Et ce riz-là, avec le poisson, servi avec le poisson. Et effectivement, ça fait écho à la saïedié qui est plutôt de la mer Rouge et de la Méditerranée, donc dont on vient de parler. Mais c'est toujours le même principe, ce sont des oignons, des épices, du poisson, et on se fait vraiment plaisir avec tout ça. Mais je me rends compte qu'on parle de mer, mais ces pays-là, non, ne sont pas des déserts uniquement. Il y a aussi des fleuves qui les traversent, à tel point qu'un pays qu'on connaît bien, malheureusement on le connaît pour des mauvaises raisons ces derniers temps, l'Irak, s'appelle en arabe « Bilad ma bayna nahrain », ce qui veut dire « les pays d'entre les deux fleuves ». Les deux fleuves sont le Tigre et l'Euphrate, donc sont énormes fleuves, il faut imaginer ce qu'est le Tigre et l'Euphrate. Hein. Notre petite Seine, c'est un ruisseau à côté. Et dans ces fleuves, bien sûr, il y a des poissons d'eau douce et notamment des carpes. Et il y a cette recette très très importante qui s'appelle le masgouf en Irak. Ce sont ces carpes qui sont juste pêchées, même pas écaillées ni rien, ouvertes, plantées sur des grands bâtons en fait.
Des
équivalents de lances, à peine ouverts. Et imaginez donc au bord d'un grand fleuve, plein de gens, des feux qui sont allumés, et on plante ces piquets autour des feux, à une certaine distance, c'est tout un savoir-faire, pour que, à la fois, ils ne grillent pas, ils fument, ils chauffent, ils cuisent petit à petit, et c'est vraiment extraordinaire, une très belle manière de ranger la carpe, ce qui me rappelle qu'on ne peut pas passer sous silence. Il y a une carpe étonnante dans la mer morte, alors la mer morte, il n'y a pas de poisson dedans, mais il y a une carpe qui survit dans le sel, alors elle survit juste à côté, elle s'appelle la carpe de la mer morte, qui est en voie de disparition, et les autorités jordaniennes, depuis quelque temps, sont en train de s'occuper de permettre la survie et le rétablissement de cette espèce pour qu'elle ne disparaisse pas, et c'est pas une espèce qu'on mange beaucoup, vu qu'il n'y en a presque pas, et je ne sais pas si c'est bon.
Le goût du monde. Clémence de Navi.
Taralgat de Oum sur RFI, vous nous rejoignez. Bienvenue, vous écoutez Le Goût du Monde en voyage avec le cuisinier libanais Karim Aïda, chef de la boutique à manger Les Mots et le Ciel, en voyage dans les cuisines du monde arabe avec pour boussole les mille et un contes de la mer dans les pays arabes et forcément un peu aussi dans les voiles de Sindbad le marin. Forcément, Karim.
Bien sûr.
Qui était irakien.
Je crois qu'il y a deux versions, deux approches, mais oui, celle-là me va très bien.
On est cohérent avec notre carte.
On est cohérent avec ce qu'on fait, avec la carte, mais pas seulement. Bon, en Irak, il y a aussi le Golfe, donc il y a la mer aussi. Mais bon, ça, c'est véritablement la spécificité irakienne. Donc ça, dans ces contrées, donc des poissons qu'ici, nous connaissons moins en France, mais bien sûr, dans le monde arabe, donc il y a les poissons de Méditerranée et d'Atlantique, donc finalement un peu les mêmes que ce que nous avons. Et il y en a un qui est très intéressant, celui qui a bouché le vieux port à Marseille.
La sardine, comme vous y allez.
voilà. Donc la sardine, c'est un poisson qu'on utilise beaucoup en Méditerranée et dans l'Atlantique. Et pour le coup, on peut peut-être choisir ce qu'on y fait dans le pays qui a les deux mers, c'est-à-dire le Maroc. Alors bien sûr, on fait comme partout, des sardines qu'on nettoie, qu'on grille sur le feu, et qui n'aime pas la sardine comme ça, mais avec des petites spécialités quand même assez intéressantes, et notamment avec les voisins algériens, ils vont faire des boulettes de sardines.
Ah, les boulettes de
sardines. Donc là, ce sont des sardines hachées. Moi, ça me fait penser, parce que c'est les noms qu'on utilise, c'est drôle, eux aussi les utilisent, mais je pense pas qu'ils les utilisent pour les sardines, c'est le kafta. Parce que le kafta, pour nous, c'est de la viande avec des aromates, de l'oignon, des épices. Et en fait, c'est de faire des boulettes ou d'autres formes de viande hachée avec quelque chose. Et finalement, dans ces régions, ils font la même chose avec les sardines. Donc notamment avec de l'oignon, de la coriandre dans les sardines, du cumin,
du
un
persil.
Petit peu de piment, du persil.
On va retrouver les herbes.
Et voilà. Et après, ils vont les cuire dans un ragoût, éventuellement avec des tomates, là encore de l'oignon, là encore un rajout d'épices. Et voilà, ça va être un petit peu magique. C'est comme, ils en font même des tagines de boulettes de sardines. Donc on peut vraiment mettre ça partout. Et c'est délicieux parce que la sardine est un poisson gras. Donc il supporte bien ce type de cuisson, ça devient pas sec comme certains de poissons. L'autre chose, c'est bon, on le sait bien, c'est quand même un des poissons gras, donc très bon pour la santé, et qui fait baisser le mauvais cholestérol et monter le bon cholestérol.
On recommande la sardine.
Donc il faut à tout prix recommander la sardine. En plus, c'est un poisson pas si cher que ça pour le moment.
Très cher.
Oui.
Est-ce que vous diriez d'ailleurs que la sardine, c'est un peu l'ami moins cher que le rouget?
Ah, beaucoup moins cher que le rouget, et on en trouve beaucoup plus pour le moment. C'est différent, c'est une chair différente. C'est-à-dire, justement, le rouget, on le ferait en rouget, en boulette, ça serait une espèce de sacrilège, parce que la chair du rouget est très particulière.
Très fine,
justement,
très délicate.
Il y a ce croco dont on a parlé, qu'il n'y a pas dans la sardine. Mais la sardine est très goûteuse. Bon, faut aimer un peu le goût. Il y a plein de gens qui vous disent, j'aime pas la sardine, ça a un goût fort, mais bon.
Elle est parfumée.
Elle est très parfumée.
Elle est très parfumée.
Et se rajoute à ça, donc en plus de la sardine, vous avez les maquereaux
oui.
qui se font, donc qui sont un peu voisins et qui se cuisinent aussi, tout comme la sardine ou d'autres poissons de Méditerranée et d'Atlantique dans la même région, ce qu'on appelle le poisson à la chair moula.
Alors, chair moula, ça c'est une sorte de marinade.
Voilà.
Qui est commune vraiment au Maroc, à l'Algérie, et là peut-être à la Tunisie aussi également, ou?
Alors, je ne sais pas trop si c'est pour la Tunisie aussi.
On va appeler Nordine Labiad, il va nous dire.
Bah voilà, il faut toujours appeler les spécialistes. Et oui, cette marinade, donc, dans laquelle on va faire cuire les poissons, dans laquelle il y a, là encore, de l'oignon, de l'ail, de la tomate, de la coriandre, du cumin, du paprika, pointe de piment. Et ça aussi, c'est superbe. D'avoir des poissons bien marinés, cuits presque en daube. Ça donne faim, tout ça.
Très bien. On peut faire en sandwich aussi, non? Imaginons des sardines frites dans du bon pain, ah ouais. Avec un petit peu de, je sais pas.
Vous voulez pas travailler avec moi?
Si, on peut.
Clémence,
on peut.
On appelle Nordine. On pourrait lancer le sandwich Clémence.
Bonjour, Nordine Labiad. Merci
Bonjour.
De nous rejoindre. Nous sommes avec Karim Aïda.
Bonjour, Nordine.
Bonjour Karim.
On fait enfin connaissance grâce à cette émission.
Et après pour de vrai. On parlait de la sardine et je voudrais savoir vous qui êtes donc chef cuisinier au restaurant à mi-chemin, on est à Paris à nouveau mais on va repartir parce que vous êtes originaire de Zarzis en Tunisie. Le poisson en Tunisie, il a quelle place, Nordine ?
Au bord de côte méditerranéenne, le poisson a une place capitale, une place des solutions. Et dès qu'on s'éloigne de côte, les poissons, ils perdent beaucoup sa place. Il fait plutôt peur aux gens qui sont loin de la mer.
On n'a pas l'habitude de le manger quand on est loin de la mer.
Ils ont perdu des arêtes, ils ont perdu des fraîcheurs. Il n'y avait pas de système de froid, il n'y avait pas de la glace. Ça rentre au moins dans le côté. Mais au bord de côte, souvent les gens qui viennent s'installer sur les côtes, ils émigrent en bateau. Donc, je pense qu'ils ont déjà mangé des poissons pendant le traversée. Et donc, on est plus habitué à manger des poissons sur les côtes qui sur les terres.
On a commencé cette émission en parlant de poissons et de riz. Moi, j'ai envie de vous parler un petit peu de poissons et de couscous.
Oui.
Nordine.
Ben, les poissons, c'était un bon ami pour le couscous. Parce qu'en Afrique du Nord, il y a quand même moins de verdure. Donc, les moutons et l'agneau, la viande, elle était précieuse. Et les poissons, elle était en période, c'était moins cher que la viande. On peut acheter l'équivalent, pour acheter un kilo de viande, on peut acheter au même tarif 3 kilos de poisson à l'époque.
Et donc, c'est par là qu'on a eu, par exemple, le couscous bilhout.
Couscous belhout, يعطيك الصحة كريم. Couscous belhout, c'était bien parce que les poissonniers, ils vont démarrer un tarif correct son poisson sur le marché vers 10h, 9h. Et à 11h, elle va passer à 3 fois moins cher. Et si on achète les poissons à la fin de la journée, on les aura presque au prix des sardines.
Eh ben, c'est intéressant. Moi, je pense que je vais aller m'installer près des marchés en Tunisie, moi, de poissons.
Oui, mais peut-être ça a changé. Après, maintenant, on a des frigos, on a de la glace. Mais je grandis, moi, les années 80, les poissons étaient beaucoup moins chers que la viande. Les gens mangent plus de poissons à la maison. Quand il s'agit des restaurants, ils vont manger un poisson plutôt grillé. Mais en même temps, sur le pêcheur qui a monté un grillade au bord d'une route ou au bord de la mer, on mangeait beaucoup les poissons chez le pêcheur même.
Dans son étal devant...
Voilà, pas loin de son bateau, il y a sa femme qui va gratter les poissons et les griller. Il mangeait les poissons les pieds dans le sable. Et après, il y a une culture plutôt italienne, d'immigration italienne, qui a amené les coquillages, les poulpes, le sèche et tout ce qu'on n'a pas l'habitude à manger avant. Et en Tunisie, il y a mixité... par rapport à la population, les trois religions qu'ils ont cohabité avec joie en Tunisie, qu'on mange tous les poissons avec écailles, sans écailles, et tout ce qui est mollusques, poulpes, etc.
Mais justement, on parlait au début de l'émission de cette cohabitation, en fait, ce mélange des cultures vis-à-vis du poisson et vis-à-vis de si on choisit avec écailles, sans écailles, mollusques ou pas.
Oui, d'ailleurs, les interdits religieux sont un peu les mêmes chez les juifs et chez une grande partie des musulmans, où il faut un poisson à écailles, il faut que ce soit pas un coquillage, il y a tout ce qui est calamar, poulpe, etc. sont interdits parce que considérés comme rampants. Et ça fait qu'il y a beaucoup de poissons qu'on laisse dans la mer, bon, ce qui est pas mal pour la mer, mais un peu dommage parce que c'est bon.
Ouais. Nordine, si je devais faire un couscous au poisson, je choisirais quel poisson ?
Plutôt toujours un poisson de saison, parce qu'il y a des saisons pour les poissons, et plutôt un poisson avec peau ferme, parce que ça cuit encore bouillon, comme les mérous, mais on pêche moins des mérous, c'est le couscous noble au mérou. Après, il y a les mélés noirs, le maigre, la dorade, le bar, un poisson encore bouillon. La peau va se rétracter et tenir la chair à l'intérieur, et tout le temps un poisson avec os coupé en dard, pas en filet.
C'est vrai que le mulet est un poisson magnifique, le mulet noir, qui permet beaucoup de choses. Et d'ailleurs, on l'utilise pour d'autres recettes dans pas mal de pays. Et c'est vrai que c'est une chair merveilleuse.
En tout cas, on vient chez vous à mi-chemin, Nordine Labiade, et pour que je reviens à Paris, mais avec un pied ici et un pied dans le monde arabe, pour votre couscous au poulpe. Racontez-nous un petit peu le lien entre Zarzis, d'où vous venez, et le poulpe.
Il y avait beaucoup de Romains qui étaient à l'époque ici. Il y a des traces de pêche de Romains avec juste une fourche où ils ont fait de la poterie ils ont pêché les poules parce qu'il n'y a pas beaucoup de fond et les poules, elle a besoin de se cacher. Elle a besoin des verdures, des roches. Il n'y a pas beaucoup de fond. Au fond, ça continue cette côte du sud de la Tunisie jusqu'à Kerkena et jusqu'à l'Italie, la Sicile, où il n'y a pas beaucoup de fond. Et là, les poules, elles vont adorer. C'est un animal très intelligent et très inventif. Et il a besoin de se cacher. Et donc, à l'époque, c'est fait d'y mettre juste les jarres et aller les ramasser comme une garlande et on trouve un poulpe, etc. Il n'y a pas d'effort à pêcher. C'était pas cher et c'était tendre pour les enfants et pour les personnes âgées. Et avec la culture italienne, ça a amené plus à travailler les poulpes autrement. Et parce qu'il y avait des poulpes, ça se produit, elle n'était pas menacée, tellement elle est intelligente, donc elle n'était pas abîmée par les filets parce qu'ils se cachent. Même quand la pêche elle est devenue un peu plus agressive, on aura que le fond, le poulpe, il arrive à, tout le temps à survivre. Demandez à Karim aussi, il a la connaissance de cet animal qui est quand même très doux et tendre et intelligent.
Karim.
Ah non, mais tout à fait. Hein. Moi, vous savez, poulpe, la sèche que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai vu dans le livre de Nordine un couscous à l'encre de sèche. Je n'avais pas pensé à celle-là. Ouais. C'est extrêmement intéressant. Et effectivement, la pêche aux poulpes, comme il disait, il y a eu les Romains. Bah oui, il y a les amphores romaines. Les poulpes se cachent dedans. On sort les amphores et les poulpes avec. Après, je ne sais pas si on fait encore ça, mais nous, quand on pêchait du poulpe, je me souviens qu'après, il fallait les battre contre de la pierre pour les attendrir.
Ouais. Nordine, est-ce que vous faites encore ça?
J'ai reçu avant-hier des poulpes frais de Bretagne, parce que les poulpes, la terre, elle chauffe, la planète chauffe, et les poulpes grimpent. Donc les poulpes rentrent dans les casiers des homards, elle va sucer le homard avec de sa chair et s'installer. Et donc il y a des poulpes en Bretagne, et on était obligé de battre parce qu'il est tout frais. Et quand on reçoit un poulpe de Méditerranée ou de Portugal ou en Espagne, donc il est déjà passé par la phase congélation et les fibres s'étaient cassées tellement c'était tendu et on n'a plus besoin de cette phase. Mmh. Il faut les cuire assez très doux, petite ébullition, légère ébullition, et on peut l'utiliser comme on veut. On peut garder les bouillons pour utiliser comme un fumé de volaille et fumé de poisson. Le bouillon, c'est très intéressant. Il y a un poisson, Karim, est-ce qu'il est d'accord avec moi, que j'adore, moi, c'est le requin. La chair,
oui.
Comme du veau, elle est poivrée.
Mais le petit, la saumonette.
Elle peut faire quand même vers les 1-11 kilos. C'est un peu beige pâle. Merveilleux, la chair, non?
Elle est très, très bonne.
Oui, du requin.
On dirait du veau. Elle est légèrement poivrée, c'est blond. Il y a juste une arête centrale, c'est un cartilage en fait.
Ouais, c'est très facile à manger et c'est agréable et en fait on peut inventer plein de recettes avec. Mais j'ai peut-être mon obsession alors de viande, de poisson en fait un peu conservé, notamment avec le mulet dont on a parlé tout à l'heure, le mulet noir. Et je ne sais pas si vous faites aussi en Tunisie des poissons séchés un peu comme en Égypte, par exemple.
Au Kerkena et à Zarzis, ils font sécher un peu les poulpes.
Oui.
Et ils font sécher les caisses des sardines et les maquereaux entières. Ils vont mettre un seau de sel sur la caisse entière et les prendre après. 3 jours après l'Aïd el-Kébir, ils vont manger les poissons séchés ou frits avec un sauce tomatée aillée qui s'appelle socharmoula. Ils vont tremper parce que les pêcheurs, c'est tout le temps économique. Ils ne vont pas acheter beaucoup de viande du mouton et vont un peu se rabattre sur la production.
Mais effectivement, parce que le poisson en fait séché, c'est comme donc ce dont je parlais en Égypte, ce mulet noir qui s'appelle le fessir, qui est séché, fermenté, qui est mangé aussi dans une occasion particulière, en fait une fois par an, qui est la fête de Cham el Nassim. C'est pour traduire, c'est le moment où on sent la brise. En réalité, c'est la fête du printemps. Donc là, tous les Égyptiens sortent dans les parcs et ils mangent, alors on va aller savoir pourquoi, du mulet qui est fermenté, séché, qui a un goût hyper fort, qui sent très fort. Donc en fait, il paraît, là encore, j'y étais pas pendant cette période, mais que les parcs sentent le mulet séché partout et fermenté. Et ils mangent ça en rajoutant aux différents aliments. Ce jour-là, c'est véritablement la grande fête de ce mulet en Égypte. Et le mulet, peut-être toujours, parce que c'est quand même incroyable, on le trouve, ce poisson qu'on connaissait très mal, par exemple, en France, que maintenant on connaît de plus en plus, notamment parce que d'autres poissons deviennent plus chers et il est plus accessible, le mulet noir. Donc on le retrouve a priori dans le couscous aussi. Et puis c'est aussi la murge, donc la femelle du mulet, dont viennent les œufs dont on fait la poutargue.
On va en parler.
Ah oui, oui. Les traditions et les coutumes des régions, comme partout dans le monde, un œuf d'une nécessité. En fait, c'était une solution. Et tellement la solution, c'était l'idéal, dès qu'on va le répéter l'année d'après, parce qu'il y a un besoin, il y a une offre en face, un stage ou un inventif qui dit, tiens, on va faire ça, ou c'était la solution. Ça fait des coutumes maintenant qui est répété. Qu'est-ce que tu penses, Karim? C'est comme ça, non?
Ah ben oui, c'est clair que c'est la nécessité qui a créé ces choses-là, le besoin de sécher. On n'en a pas parlé quand on parlait du golfe, mais par exemple, ils ont des petits poissons séchés qui mangent comme des friandises, des petites crevettes séchées, un peu dans la même tradition que la tradition indienne, des crevettes séchées qu'on retrouve aussi dans les plats. Donc effectivement, la conservation même du poisson est fondamentale, parce qu'il y a des moments, d'abord, il y a la saisonnalité du poisson. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Nourdine avait bien raison de le dire. D'ailleurs, les petits rougets, on les trouve maintenant.
Le goût du monde. Clémence de Navi.
De David Touré sur RFI, vous écoutez Le Goût du Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous voguons sur les eaux du Nil, du Tigre et de l'Euphrate, également sur la mer, dans l'eau salée, on adore, avec Karim Haïdar, le chef cuisinier de la boutique à manger Les Mots et le Ciel dans le 15e arrondissement à Paris, et Nourdine Labiat qui nous a rejoint à mi-chemin. Moi, j'ai envie qu'on parle un peu de la poutargue, qui est un peu une passion commune à vous, Karim, à vous, Nourdine, et à moi-même. Alors, la poutargue, chez vous, Nourdine?
La poutargue, c'est la Madeleine de Proust. Pour les gens qui ont quitté la Tunisie, et j'ai découvert la poutargue encore, c'est traité d'une manière formidable de l'association des pêcheurs qui vont la pêcher, sécher, saler, conserver, vendre en litton. Elle ne sort pas, elle ne voyage pas. Et donc, je voulais les sublimer dans les deux sens, l'amener vers chez moi, les traiter avec des citrons et un peu, et l'amener vers Paris, le traiter avec l'œuf maillot. Voilà, la poutargue, ça reste comme un caviar, comme un petit lingot d'or.
C'est un produit effectivement magnifique, très fin, quand il est bien fait. Ce que j'aime bien, c'est qu'actuellement, ceux qui préparent la poutargue et qui la font salée et séchée, la font de plus souvent plus moelleuse qu'il y a une dizaine ou une vingtaine d'années. Et moelleuse, elle est magnifique. Au Liban, on la consomme, c'est drôle d'ailleurs, au Liban, on consomme beaucoup de choses en mono-usage. Et la poutargue en fait partie, c'est-à-dire on la consomme d'une seule manière traditionnellement. Elle est coupée en petites tranches avec des fines lamelles d'ail. un filet d'huile d'olive et du pain. Je pense que c'est extraordinaire. Pour moi, c'est un de mes produits favoris. Malheureusement, c'est un produit un peu coûteux, parce que sinon, je pense que je mangerais de la poutarde tous les jours.
Mais qu'on peut râper aussi, on peut avoir une utilisation.
Nous, au Liban, on l'utilise que comme ça, mais dans toute la région, elle peut être utilisée de mille et une manières autour de la Méditerranée. J'en ai même parlé dans un de mes livres de poutargues qu'on passait au-dessus de la flamme du barbecue. Râpée, bien sûr, même sur de la semoule, pourquoi pas, sur toutes sortes de poissons. Moi, j'aime beaucoup ail des ours, asperges sauvages et poutargues.
On fait une salade corse avec des brebis frais, et de l'avocat et de la poutargue.
Elle est multi-usage. Oui. C'est un produit magique. Il y a ce côté corsé en bouche, mais doux en même temps. Alors c'est très drôle parce que bon, il y a des inconditionnels et il y a des gens qui détestent ça.
Oui, c'est un poisson qui est assez parfumé quand même, qui a un goût et un parfum très prononcé. Je vous propose d'aller en Mauritanie où il y a une pêche et des techniques de pêche artisanale assez incroyables, notamment dans les eaux du parc du banc d'Arguin où les pêcheurs pêchent au filet sur l'épaule.
Dans toute l'Afrique de l'Ouest, il y a qu'ici au parc qui a ses lanches en voile. Ça fait venir beaucoup de gens pour voir comment marchent les lanches, comment on les fabrique et tout. Déjà, tout ça, c'est quelque chose à préserver. Un millet, c'est un poisson saisonnier qui vient dans le mois d'octobre, surtout novembre. C'est un poisson qu'on transforme pour chercher. Et c'est avec ce poisson qu'on récupère l'huile de poisson, qu'on fait du tishtar avec. Et c'est avec ce poisson qu'on trouve des œufs pour faire la poutarde. Ça se fait beaucoup en France. Donc c'est un poisson vraiment très, très riche.
La poutarde mauritanienne. Vous avez vu comment se passait cette pêche, Karim Haïdar ?
Oui, bah les pêches, bah comme là on vient de nous le raconter, mais également la pêche plus au large. Vous avez les grandes pirogues et les pêcheurs qui sont dessus, qui attendent de trouver un banc, qui contournent le banc, mettent le banc de poisson, le banc de mulet entre les bateaux et la côte et commencent à taper sur l'eau. Et les mulets, bien sûr, bah ils vont dans l'autre sens, ce qui est un peu logique. Et là, de l'autre côté, ce que vous avez, c'est le reste du village qui est dans l'eau avec des filets et qui va encercler comme une nasse, en fait, pour attraper tous les mulets d'un coup. Ces mulets qu'on va manger rapidement, sécher pour certains, mais surtout retirer la laitance qui va servir et devenir de la poutargue. Et pour nous, en tout cas au Liban, c'est vrai que il y a ce côté très connu de la poutargue tunisienne. Pour nous, la poutargue, elle vient de Mauritanie le plus souvent, ou alors d'Égypte. Sans doute, ils prennent la poutargue avant de sécher et de fermenter leur mulet noir. Et donc, c'est de là que les Libanais récupèrent leur poutargue.
Nordine Labiane, Karim Haïdar, quelle est la place du sel dans la conservation du poisson? Est-ce que ça va être un élément de conservation qu'on va privilégier, Nordine, peut-être?
Moi, les poissons qu'on devrait tous avoir chez eux, c'est des boîtes en sardines. Des boîtes de sardines à l'huile. Et maintenant, il y a certains restaurants qui proposent des sardines millésimées, même sur des pains rassis. Ouvrir une boîte de sardines, c'est un bonheur, mais...
Le sel, bon, bien sûr, partout dans la cuisine du poisson. Il y a même un salage, d'ailleurs, pour faire ce que disait Nandine, d'une certaine manière. Les sardines à l'huile sont d'abord salées un petit peu et séchées avant d'être mises à l'huile. Donc, on a vraiment l'usage permanent de ce sel. C'est ce sel qui fait la mer, donc qui fait les poissons. Essentiel, finalement, dans la fabrication de tellement de produits. Pour moi, personnellement, j'en mets même dans les desserts, mais bon, ça, c'est très particulier.
Nordine, un peu de sel dans les desserts, ça vous effraie pas, ça?
Dans les caramels au beurre salé, moi, j'adore, là.
Un dernier mot, je voudrais parler des anchois.
C'est très important d'en parler, et moi, je parle des anchois frais, parce que là, je peux me permettre un coup de gueule.
Oui. Bien sûr, allez-y.
Alors, je vais vous dire, moi, je fais des anchois frais. des anchois frais frits. J'essaye d'en vendre à mes clients. Et mes clients me disent tous, c'est la première chose, je n'aime pas les anchois. Alors je leur dis, vous aimez pas les anchois, là, salés, qu'on met sur les mauvaises pizzas, pas les très bons, parce qu'il y en a sûrement des très bons. Et on me dit, oui, oui. Je dis, mais ce n'est pas ça, c'est un anchois frais, vous n'avez jamais goûté d'anchois frais. Et je me bats avec eux, mais je me bats vraiment, quoi. Et je leur dis souvent, vous en mangez, sinon vous partez. C'est le seul moyen de les faire manger. Donc je suis proche de virer mes clients. Et ils en prennent, et ils adorent, et ils en recommandent. Et moi, de l'autre côté, j'ai énormément de mal à avoir des anchois frais. Vous savez pourquoi ? Je dois les précommander, parce que tous les anchois, quand ils descendent du bateau, ils vont dans ces endroits de salage, séchage d'anchois pour mettre sur les pizzas. Et les gens, vous le savez très bien, tout le monde le sait très bien, tout le monde prend sa pizza, enlève les anchois, les met de côté et mange la pizza sans les anchois. Donc, ces pauvres anchois. Et on fait croire à 90% de la population que l'anchois frais n'existe pas, alors que l'anchois frais est délectable.
Nardine. Comme du coton, on peut les frire et laisser un peu tiède, manger tiède. Et les, comme du coton, on dirait qu'on croque dans la neige.
Et voilà, on croque dans le bonheur.
Voilà. Vous savez quoi, ça se termine bientôt cette émission, l'un et l'autre. Moi je dis, il nous faut une petite soupe pour terminer, une soupe de poisson. Laquelle ce serait ?
Soupe de poisson, bien sûr. Alors, la soupe de poisson, moi, je retournerai loin de là où on est actuellement dans notre Méditerranée. Je retournerai à la mer d'Oman. On va faire une soupe de poisson avec deux de leurs spécialités qui vont être aromatisées, bon, au-delà des aromates classiques, des oignons, etc. C'est une soupe claire dans laquelle le poisson est simplement poché, des morceaux de poisson qui sont pochés. Mais cette soupe claire est aromatisée à la datte et au tamarin. Et là, on voyage.
Non. Avec moi, une cuillère, pour le coup. Karim, on n'est pas dans les... en Afrique, mais là, en Colombie, je mangeais un soupe comme ça, avec un poisson frit, et après, on le plonge dans un bouillon, on a cuit des plantains, des patates douces, et un autre des sortes de fruits, de légumes un peu doux. Ça me fait penser aux dattes. Et là, je pense, j'en ai pris ça pendant une semaine. Ça me fait penser à la même chose de l'autre côté de l'océan. Ouais.
Mais d'ailleurs, il y a une très grande similitude de cuisine entre le monde arabe et notamment le Moyen-Orient et la Colombie, puisqu'il y a eu, fin du 19e siècle, une énorme émigration jusque là-bas, qui fait que souvent les cuisines sont très très proches.
Il y a des fils comme ça qui s'aiment et qui lient les continents les uns aux autres et les cultures les unes aux autres que l'on essaye de montrer un petit peu au gré de cette émission. Merci beaucoup à vous deux. Merci Nordine Labiade.
Merci Clémence.
À bientôt.
Merci beaucoup. Merci Karim.
Merci beaucoup Karim Haïdar pour ce deuxième voyage. Si vous en voulez encore, Le Voyage du Pain dans le monde arabe est en podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Les mots et le ciel, votre boutique à manger, Karim, est située dans le 15e. On l'a dit, rue Olivier de Serres, des rougets en Saumur. Peut-être qu'on pourra en trouver chez vous. Et des petites fritures également. Et vous, comment le goûtez-vous, ce poisson en friture, en beignet, fumé, grillé? Bref, racontez-nous sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp 33 6 43 16 15 66. Merci beaucoup à Cécile Bonici pour la réalisation et la mise en onde de ce Goût du Monde. À vous tous de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même table.